Bonjour et bienvenue sur ce spécial de Comic City, le numéro 7. Je suis avec Mister Honey Bunny.
Et oui, je suis là.
Et avec Claire, qui, comme tous les spéciaux, est ici avec nous.
Et oui, salut tout le monde.
Voilà, et je suis Steve. J'ai oublié de me présenter.
Ça n'a pas changé.
Non, on t'avait reconnu d'ailleurs, c'est bizarre.
Le thème de ce 7e spécial, c'est Starman, puisque ce mois-ci, après 2 mois de retard, sort le 2e omnibus en français de cette série. On a décidé de relire le premier, ou de le lire pour certains.
Il est dispo d'ailleurs, le second.
Oui, certainement. Le deuxième est sorti normalement le 16 juin.
Ouais.
Et donc, on est le 22 juin, donc ça fait maintenant à peu près une petite semaine qu'il est sorti. Donc si vous n'aviez pas sauté le pas pour Starman, on va vous en parler un petit peu en détail. Série qui est considérée aujourd'hui comme une série culte. On va y venir, tranquillement. La série est tout entièrement écrite par James Robinson. Les dessins sont de Tony Harris, pour la majorité. Voilà. À l'exception de quelques épisodes, les épisodes sur le passé, qui sont signés d'autres, enfin, des artistes guests, en fait.
Voilà.
Voilà.
Ça se voit.
Et le numéro 14, qui fait partie de l'arc, où il y a tout un panel de dessinateurs différents, des gens qui sont aujourd'hui des noms très connus, qui ne l'étaient peut-être pas à l'époque, puisque faut replacer en contexte, c'est quand même 95 pour cet épisode-là, donc des gens comme Tommy Lee Edwards, Stuart Immonen, Chris Prouse ou encore Amanda Conner. Donc, voilà, déjà des...
Amanda comment ?
Amanda Conner.
D'accord.
Celle qui dessine actuellement Power Girl, par exemple. Enfin, qui dessinait puisqu'elle vient de partir du titre.
Ok. Et oui, faut préciser aussi que James Robinson, donc comme tu le disais, est resté tout du long et que ça fait quand même plus de 80 épisodes, je crois, Starman.
Bah, 80 tours.
80, mais enfin bon,
plus,
il y a les,
le 81
y a les spéciaux,
qui... ouais, voilà.
Etc. Après.
Et puis il y a le 81 qui est sorti pendant Blackest Night. Vous avez ressuscité le titre comme d'autres titres en même temps, une dizaine à peu près, et qui était écrit là aussi par James Robinson. Mais bon, il ne fait pas vraiment partie de la série. Voilà, donc ce premier tome de l'omnibus, enfin des omnibus à venir, reprenait le numéro 0 à 16, donc 17 épisodes, et le premier truc c'est que on met du temps à le lire.
Oui.
Ouais. Oui, ça paraît pas si énorme comme ça, à première vue, puisque l'omnibus, on a eu des omnibus plus épais que celui-là. Mais au fait, on se rend vite compte qu'un épisode de Starman, ça se lit, ça peut se lire en une vingtaine de minutes, quoi.
Ouais, c'est très dense.
Donc,
pour faire une comparaison actuelle, vous pouvez lire Hulk par Jeff Loeb 1 à 10, et je suis pas sûr que vous aurez fini un épisode de Starman en même temps,
ouais.
Dans le même laps de temps.
Ouais. Oui,
je sais,
voilà.
Je suis méchant, mais bon.
À peu près. À peu près ça.
Voilà. Donc, Starman, c'est un personnage que les fans de la JC connaissent sûrement. C'est vrai que chez nous, DC a quand même eu beaucoup de mal à sortir en France. On commence à être habitué, c'est vrai, mais ça reste encore pas mal obscur pour beaucoup de gens. Là, le Starman qui est dans cette série, c'est ni plus ni moins que le fils du Starman original. De la JSA, donc des années 40 du Golden Age.
Ouais.
Qui,
d'ailleurs, on le voit, son père.
On le voit, puisqu'il est toujours vivant.
Il participe pas mal, ouais.
C'est un personnage secondaire, mais quand même assez central dans la série. Donc, c'est lui qui prend le manteau, et qui prend le manteau quasiment, enfin, dès le premier arc, en fait. Donc, ce premier arc de 4 épisodes, qui part du numéro 0 à 3.
Donc, alors, déjà aussi, il faut dire que Starman, pour ceux qui connaissent bien l'univers DC, c'est pas forcément le personnage qu'on remarque et qu'on connaît dès le début, quoi. Moi, je sais qu'il y a quelques mois, je connaissais pas du tout Starman. Je l'avais déjà vu en image, enfin en représentation comme ça, mais je voyais pas du tout qui c'était ni qu'est-ce qu'il faisait. Donc,
il faut dire qu'aujourd'hui, en plus, on le voit plus dans l'univers DC.
Donc, ouais, plus du tout.
Plus du tout. Donc. Petit spoiler peut-être, donc avancé de quelques secondes si jamais vous voulez pas savoir la fin de la série, quoique un spoiler sur deux trucs d'il y a 15 ans, est-ce vraiment du spoiler? Voilà, c'est qu'aujourd'hui il a pris sa retraite.
Ah bah tu vois, moi je pensais qu'il était mort.
Non, il a pris sa retraite et c'est Stargirl, que l'on voit dans les pages de la JSA, Je sais pas si tu vois de qui je veux parler.
Ah, avec son sceptre.
Ben, il lui a donné son sceptre.
Ah, je savais pas, cosmique. D'accord, voilà. Ok, mais j'ai jamais fait le rapprochement, tu vois. Ah,
et
d'accord.
Elle est de sa famille ou pas?
Pas du tout. C'est la fille du Star Spangled Kid. Qui était un autre membre de la JSA des années 70. D'accord. Ou peut-être de l'All-Star Squadron. Enfin, je sais pas, je mélange un peu les équipes de cette époque, donc.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a quand même 500 personnages
puis avec
différents.
Les...
Donc,
voilà, puis chacun se passe le manteau.
on risque un moment de s'en mêler les pinceaux. Ouais, oui, c'est... puis ensuite, il se passe aussi les identités et tout. Ouais. Sauf que là, ce Starman-là, il a son look propre, comparé aux autres.
Ah ouais, c'est clair.
Exactement, oui. Donc, commençons par le commencement, le premier arc, qui s'appelle Sins of the Father. Donc, qui fait 4 épisodes, comme je le disais, du numéro 0 à 3. Pourquoi un numéro 0? C'est vrai que de temps en temps, on en voit dans les boîtes comme Image, etc., qui commencent par un numéro 0. Après, certaines autres boîtes font des numéros 0 qui reviennent sur les origines. Pas forcément à lire en premier, mais comme on a eu le cas sur Invincible, par exemple, qu'on a pu voir en tout cas en français. Là, c'est qu'en fait, il faisait partie du gros crossover qui secouait DC à l'époque en 1994, Zero Hour, qui permettait de mettre un truc à la continuité. C'est le mois où toutes les séries étaient revenues à zéro pour raconter les origines de tous les personnages.
D'accord, donc c'est pas du tout un numéro d'appel, quoi.
Non, voilà, ce mois-là, en fait, toutes les séries existantes avaient un numéro zéro. Et il y a quelques autres séries qui ont été lancées, notamment, c'était Demon, je crois, qui a été lancé en même temps au numéro zéro aussi. Et je ne me rappelle plus qui l'écrivait, mais je crois que c'était Garth Ennis, accompagné de John McCree au dessin. Bref. Donc voilà, le personnage est lancé pendant Zero Hour, et ça fait pas réellement partie du crossover, hein, faut être honnête, et c'est pas plus mal d'ailleurs.
Ouais, non, là on peut lire d'ailleurs Starman sans avoir lu quoi que ce soit d'autre de l'univers DC, hein, aussi, il faut préciser.
Oui.
On peut vraiment aborder cette lecture comme ça, quoi.
Bah c'est ton cas, Claire, hein, d'ailleurs.
Ah bah ouais, moi, DC c'est pas trop mon univers, et...
Même pas lu un petit épisode de Batman comme ça une fois pour déconner.
Non, mais si. Non, mais des épisodes réguliers, je veux dire, pas forcément. Tu vois, j'ai lu des trucs
par-ci par-là.
Par-ci par-là et des machins un petit peu en dehors justement de
la continuité.
Continuum là.
Continuum.
J'aime
beaucoup la continuité. Oui.
Mais le continuum espace-temps, ce n'est pas ça. Enfin bon, on en parle souvent dans les comics.
Non mais voilà, justement, parce que là, en parlant de Starman, j'ai beaucoup pensé à un continuum espace-temps, tout ça, donc du coup, voilà. Ouais.
Donc, bah non, mais c'était une super blague, excuse-moi.
J'aime beaucoup le blanc flamme.
Donc oui, effectivement, donc on peut le lire tout à fait sans avoir lu autre chose et commencer par ce volume.
Oui, parce que c'est vrai que c'est bien expliqué, les relations des personnages sont bien expliquées, on nous explique bien qui est le premier Starman, et on peut comprendre tout à fait tout ce qui s'est passé, enfin pas tout ce qui s'est passé, mais en tout cas comprendre ce qu'on a besoin de comprendre juste à la lecture de ça.
Exactement, exactement. Et donc on commence d'ailleurs avec le Starman, le dernier Starman en date, quoi, à l'époque.
Voilà, c'est ça.
Qui a le costume classique de l'époque JSA, mais qui n'est pas le père, puisqu'il a donné son... Il a passé en tout cas le manteau à son fils.
Je pense que ça se fait un peu vieux. Hein. Les années 40, c'est... Voilà.
Ouais, mais bon, rappelle-toi que les membres de la JSA avaient tous rajeuni et étaient quasiment immortels à l'époque.
Oui, mais enfin, quand tu vois le physique du père, tu te dis, bon, il va peut-être pas remettre le costume. Non
bah, il a une soixantaine d'années, quoi. 70 ans, peut-être.
Mmh. Ouais.
Mais bon, ils avaient eu un espèce de sort sur eux qui les empêchait de vieillir plus.
D'accord.
C'est pour ça qu'on a encore un Jay Garrick frais et pimpant, même s'il est un peu vieux, à notre époque. Voilà, donc bah ça commence comme tu disais sur cette page où on voit un Starman en haut d'un immeuble et qui meurt.
Bah il se fait c'est le tir au pigeon quoi, de toute façon.
Ouais, voilà, un sniper et appuie.
Voilà. Mais ce qui est marrant c'est qu'il fait tout un discours, alors tu te dis ça y est, c'est lui le personnage principal qu'on va suivre tout au long de l'histoire.
Ce qu'on a du mal à comprendre avec la cover d'ailleurs où on voit un mec en blouson de cuir et là on voit un mec en spandex, on se dit
ouais c'est clair.
Ouais mais tu te dis bon sans doute il va changer de costume ou enfin voilà. Enfin bon, de toute façon si t'as lu le résumé qu'il y a derrière la couverture, tu sais que tu sais qu'il va se faire shooter. Mais bon, admettons que tu ne le saches pas. Voilà. Tu te dis oh qu'est-ce qui se passe? Et voilà, donc l'histoire commence sur le meurtre de ce Starman, ouais.
C'était le Starman actuel.
Voilà, le Starman actuel, et du coup, son frère et son père s'inquiètent, quand même, il y a de quoi. se disent voilà, on va sans doute se faire attaquer par un super vilain, il faut réagir. Et le frère, donc Jack Knight, c'est ça.
C'est ça.
Je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, donc son frère à lui.
David.
David. Donc David est tué et du coup Jack commence à s'inquiéter, mais voilà, être super-héros c'est pas son truc, lui il est antiquaire quoi en fait.
Oui, bah en fait, il a les super-héros en horreur parce qu'il a l'avoir vécu avec son père, voilà, il trouve que c'est ridicule d'enfiler du spandex, ce que les gens pensent en général des super-héros quoi, aller se battre dans la rue en est en costume moulant, c'est pas son truc. Et lui, son truc, c'est les objets anciens. Il a la collection Itaigu, en fait. C'est ouais, d'ailleurs son métier.
Il est aussi, enfin, par rapport à la famille, il se pose comme en dehors de tout ce truc super-héros, quoi. Le mec qui va apprendre du japonais, faire des arts martiaux comme ça, enfin, des trucs complètement à côté par rapport à tout l'héritage familial, quoi.
Et puis les tatouages aussi.
Et puis les tatouages, enfin, ouais, voilà, c'est. Puis le côté artiste bohème un peu, enfin.
C'est un peu le mouton noir de la famille, en fait.
Ouais. Voilà, ouais. Son père, d'ailleurs, le lui fait remarquer.
Tout le temps.
Toujours son dédain pour les super-héros. Ouais. Il est. Enfin, voilà, quand on sent que dans la famille, il est pas rejeté, mais bon, il est un petit peu en dehors, quoi.
Mais le problème, c'est qu'il a tendance à critiquer. Voilà, il a tendance à critiquer les super-héros et se rendre compte que, vu que son père a été super-héros, ça fait mal aussi à son père. Et on a une superbe scène dans le premier numéro où il dit va-t'en, je vais plus te voir pendant quelques jours, quoi. Je vais plus te voir pendant un moment, et il lui dit on se voit quand même vendredi pour le dîner familial. Après une petite hésitation, il fait oui d'accord, mais voilà quoi, je vais pas te voir d'ici là, va-t'en quoi.
Et puis il se fout souvent de la gueule de son frère quand même aussi. C'est vraiment quoi. Enfin la relation qu'il a avec son frère.
Au début on est même un peu étonné quoi, tu vois, son frère meurt et il le dit lui-même, il est pas si triste que ça. On a l'impression qu'il est un peu détaché de ce qui se passe quoi. Et vraiment, il y a quelque chose qui va le faire basculer, qui va le faire s'intéresser vite fait aux occupations de super-héros, puisqu'il va se faire attaquer.
Bah, lui aussi, voilà.
Voilà. Il va pas vraiment avoir le choix, en fait.
Puisque bah, son magasin va exploser, le magasin, enfin en tout cas, on vient le tuer, et en détruisant son magasin, on pense qu'il est mort. Et voilà, et son père aussi est attaqué, se retrouve à l'hôpital d'ailleurs, après que sa maison ait explosé, enfin l'observatoire dans lequel il habitait explose. Donc il y a vraiment quelqu'un qui vise la famille Knight. Reste à savoir qui c'est.
Ah ben, on va pas le dire, on va terminer le podcast.
Voilà, c'était la lecture du premier épisode.
Voilà. Bon, c'est bien, acheter la suite, hein, pour lire. On n'a pas eu le temps, en fait. On n'a pas eu le temps de lire la suite. C'est tellement long un épisode qu'on n'allait que jusque-là. Non, mais au fait, bah de toute façon, on sait
on va dire,
vite. Le méchant, c'est tout simplement...
The Mist.
The Mist, alors je sais plus, ils l'ont pas traduit, enfin si, ils l'ont traduit justement en français, il s'appelle plus The Mist en français, je sais plus quelle traduction lui a donné Jérémy, et j'ai pas envie de trop chercher là. Non mais c'est compliqué, il y a tellement de textes,
hein.
Il y a tellement de textes que je me rappelle plus, là j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus comment ça a été traduit. Mais dans tous les cas, voilà, c'est un super vilain, classique. De Starman, c'est Némésis, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est son ennemi juré, quoi.
Voilà. L'ennemi juré du père.
Voilà. Et voilà. On voit qu'il veut, dans un dernier coup d'éclat, détruire complètement le père, Ted Knight.
L'empire Starman, quoi. Enfin,
complètement, oui, voilà.
Ouais, ça,
en lui
voilà.
Prenant ses enfants, en lui prenant tout ce qu'il a aimé, c'est-à-dire sa maison, etc., et en le gardant pour la fin, et au moment où il croit qu'il pourra pas aller plus bas, le finir définitivement. Voilà ce qu'il avait envie. Et on découvre que le Mist a aussi un héritage avec un fils et une fille.
Voilà, bah c'est un petit peu les familles, enfin pas les familles maudites, mais t'as la famille de super-héros d'un côté, la famille de super-vilains de l'autre, et voilà quoi, ils vont s'affronter de génération en génération. C'est l'éternel combat, quoi.
Et la famille de flics aussi.
Oui.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi la famille.
C'est des histoires familiales vraiment, quoi. C'est l'héritage familial qu'on se passe de génération.
C'est le thème.
C'est vraiment ça.
C'est le thème central de la série, de toute façon, l'héritage. On en parlera tout à l'heure avec les autres Starman, mais c'est exactement ça, de toute façon, le thème.
Oui, c'est la question de, voilà, des liens familiaux, de l'héritage, de ce qu'il faut garder, enfin, voilà. C'est,
typiquement, ce qu'est l'univers DC, en fait. L'univers DC est vraiment basé sur l'héritage, en général.
Oui, c'est vrai.
Le costume se passe d'un personnage à un autre, tout en gardant la même identité, ou la changeant légèrement, mais, généralement, on revient toujours à la vieille identité du premier personnage, et, c'est vraiment ça.
Ouais, le spécialiste en la matière, c'est Flash, par exemple.
Exactement. Ouais.
C'est même très dur de s'y retrouver, tellement il y en a eu sous le costume et tellement ils ont la même tête, puisque le costume ne change pas.
Bah, il y en a que quatre. Hein.
Oh bah oui, bah alors allons-y. Hein.
Bah, il y a Jay Garrick, il y a Barry
Mais non,
Allen,
mais...
il y a Wally West et
Ouais,
il y
non, mais
a
pour s'y
bien sûr
retrouver,
Impulse,
comment,
Bart.
quand tu lis une histoire, c'est par exemple dans les années 90, au début, quand tu t'y connais pas, tu sais pas que c'est Wally West sous le costume.
Bien sûr.
C'est comme il y a les kits Flash, etc. Enfin, c'est très compliqué, quoi, de résumer tout ça.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Ah oui, si, moi j'avais essayé de lire du Impulse. Il a fallu que tu me racontes toute l'histoire de. Il revient du futur, mais en fait il est dans le passé et machin. Enfin, c'est vrai que bon, c'est
Ouais, et
compliqué.
puis avec, dernièrement, ces dernières années, avec la famille Flash qui est de plus en plus nombreuse, c'est quand même assez compliqué de s'y retrouver, quoi. C'est vraiment l'exemple type du héros d'essai à famille nombreuse. Et donc la Starman, bah bon, c'est déjà plus simple, quoi, quand
Oui,
même.
mais ils sont que deux. Mais enfin, ils sont que deux enfants.
Non, puis en plus
Plus qu'un, en fait.
ils ont pas les mêmes le même style, la même tête, etc. Donc tu reconnais bien les différentes incarnations du personnage.
C'est vrai.
Ils ont pas les mêmes vêtements, tout simplement, déjà. Enfin, le fait qu'en fait, il soit un héros malgré lui, il n'a pas du tout l'archétype du héros, en fait, même au niveau vestimentaire, quoi.
Ouais, c'est un petit peu un héros, ouais, comme tu dis, malgré lui, quoi.
Ah,
C'est
c'est ça,
vraiment
vraiment, ouais.
le mec qui débarque. Et d'ailleurs, au début, bah, en fait, voilà, c'est un petit peu le reproche aussi, premier reproche que je pourrais faire, c'est que je trouve que il s'en sort vraiment pas si mal que ça dès le début. Comme si, bon, alors on peut dire qu'il était peut-être prédestiné, tu vois, à épouser cet héritage familial, mais bon, enfin, tu vois, j'ai trouvé ça un peu vite expédié, le côté apprentissage, quoi,
Ben
qui au
oui et
fait
non.
quasiment
Mais
inexistant.
ils te disent quand même que le mec, il a fait des arts martiaux, tout ça, et que c'est
Ouais,
un peu pour ça qu'il s'en
c'est vrai
sort,
que ça
quoi.
aide, oui,
Il n'y a pas que
évidemment.
ça, disons qu'il y a une petite phrase, alors peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais il y a un petit passage dans ce premier arc où il repense à des souvenirs de quand il était avec son frère, quand il se fait tabasser par justement le fils de The Mist, la première fois où il le rencontre, habillé en Starman en tout cas. Et il le repense en arrivant, il se voit arriver en fait dans la chambre avec un truc pour regarder les images. Alors je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de visionneuse avec des images où il y avait son père justement. Il dit ouais c'est cool, j'ai trouvé ça et tout. Et dans ses souvenirs, son frère lui dit ouais c'est de la connerie machin. Et il s'imagine que son frère dit de toute façon plus tard je deviendrai comme papa Starman. Et il se rend compte. Alors c'est écrit très rapidement. C'est juste une case, mais il y a écrit en fait. Non, c'est pas lui qui a dit ça, c'est moi qui ai dit ça. Et quand il était petit, c'est lui qui voulait devenir comme papa. Mais ça, il a occulté ses souvenirs de sa mémoire. Et pourquoi il a fait ça, ça par contre, je pense que la suite de la série nous l'apprendra. Mais c'était lui
Ouais,
qui voulait devenir Saman, et pas David.
mais moi
non,
je pense que, comme dit Benny, hein, je pense qu'il y a toutes ces histoires de famille là, je pense que oui, il doit y avoir une sorte de j'étais prédestiné et c'est dans mes gènes de savoir faire ça, tu vois.
C'est possible.
Ouais, non, mais ça, c'est fort possible. Mais, enfin, voilà, tu sais, quand on aborde les premiers épisodes, on s'attend à ce qu'ils commettent des impairs, qu'ils fassent quelques boulettes,
Oh bah
etc., qu'ils
il
s'en
en fait
sortent mal.
quelques-unes quand même.
Oh, quand même.
Oui, mais bon,
Il se fait bien défoncer en premier arc, et puis la boulette ultime, c'est quand même
Ouais, mais c'est normal,
la
ça, quand même, qu'il se
résolution
fasse.
de l'arc.
Ouais.
Le fait qu'il tue le fils de The Mist.
Ouais, bah oui, c'est ce qui déclenche tout, finalement.
Ah bah oui, c'est clair.
Et c'est là qu'en fait on voit que les deux familles sont des miroirs l'une de l'autre, finalement. Puisque The Mist et Starman père étaient ennemis, chacun ont deux enfants, un qui est le fils en fait de The Mist est arrogant à l'extrême. Et genre veut reprendre le manteau de papa, de même que David avait repris le manteau de son père. Et la fille Nash bégaye et pas sûre d'elle, suit un petit peu les choses parce que on lui dit suivre. Et Jack, lui, se retrouve un petit peu mêlé à tout ça contre sa volonté, mais pareil, pour défendre l'honneur familial, il n'y a plus que lui, donc il suit. Ce sont vraiment des reflets,
Non, mais tout
ces
à
deux
fait, hein.
familles.
Oui, et puis il y en a un qui prend un fils à l'autre et l'autre prend un fils à, enfin,
Exactement, voilà, c'est
tu
ça.
vois, c'est vraiment un retour à l'envoyeur, quoi, à chaque fois.
Et que la
Exactement.
mort, à chaque fois des deux, va faire que le survivant, sa vie va changer, quoi.
Oui, aussi, ouais. Ben enfin ouais, c'est vrai qu'il y a tout un truc comme ça qu'on voit pas forcément à la première lecture.
Mais moi, ce premier arc, je l'ai relu deux fois, en fait. Enfin, je l'ai lu deux fois. Je l'avais lu une première fois, il y a un petit moment. Et pour faire ce spécial, j'ai décidé de tout relire. Et j'ai vachement plus apprécié la deuxième lecture de cet arc-là. vraiment beaucoup plus.
Mais moi, en fait, bon, je l'ai pas relu, mais moi, c'est les petits détails qui m'ont intéressé dans cet arc. C'est pas tant, enfin, il y aurait eu que cette histoire là avec, voilà, le demi-sc, nanana. Bon, enfin, pour moi, ça serait resté du super-héros, quoi. Et c'est les petits détails avec des personnages qui apparaissent, comme par exemple The Shade.
Oui, dont on n'a pas encore parlé,
voilà.
Mais je voulais y venir.
Ou justement, ou la diseuse de Bonne Aventure, qui là m'ont vraiment donné envie de voir la suite, quoi.
Ouais. Et c'est vrai que durant cette première arc, ce premier arc, il y a pas mal de personnages plus ou moins secondaires qui sont introduits, dont les l'autre famille de flics là dont tu parlais
La
tout à
famille
l'heure.
Oder.
Voilà, la famille Oder. j'ai dit avec un pur accent. Oder. La famille Oder. Qui d'ailleurs ça me fait j'ai trouvé ça un peu poussif quoi, tu vois, la famille de flics qui arrive et puis la flic qui on se dit déjà ah tiens ça y est il va commencer une intrigue amoureuse avec elle avec la fille là
Ouais, enfin sur le moment on se dit ça et puis
ouais, non,
finalement les
sur le
épisodes
moment on dit
avancent.
ça, non mais au fait peut-être pas, mais effectivement, mais je veux dire bon tu vois j'étais pas passionné par ces personnages là je me demandais même si on allait les voir pendant longtemps. Par contre, The Shade, alors tout de suite, il fait fort, quoi. Tu vois,
Ah, c'est clair, ouais.
Ah, le personnage est majestueux,
Ouais.
franchement.
Limite, on se demande si c'est pas, enfin, c'est quasiment le second personnage principal, quoi. Tu vois,
Ah oui,
c'est
oui,
pas
oui.
le
Ah
père
oui, c'est
de,
clair.
c'est pas le père de Starman, c'est lui, quoi. C'est The Shade.
Mm-mm.
Et d'ailleurs, question, The Shade, donc c'est un ancien personnage
Oui, il
de,
existait déjà, oui.
ouais.
De toute façon, on le voit dans les autres épisodes, il disait avoir déjà affronté Flash. Bon, j'ai pas été faire des recherches, mais j'imagine que c'est vrai. De toute façon, Robinson, pour cette série, a fait énormément de recherches sur la continuité, et c'est impressionnant comment il arrive à relier les choses et à prendre des histoires du Golden Age pour les intégrer. Bien sûr qu'il y a un petit peu de retcon où il modifie un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est bien, c'est vraiment bien, et ça se tient.
Donc, The Ragdoll, c'est quelque chose qui a vraiment existé?
Le personnage a existé, oui, bien sûr.
D'accord.
Il existe aussi un autre personnage Ragdoll aujourd'hui. Je sais pas si c'est le même, mais en tout cas, il existe toujours et il fait partie de Secret Six actuellement. Voilà, ça fait un vieux blanc.
Oh, oui, ça fait un vieux plan. Non, mais j'allais dire que la nana qui tient la boutique de, enfin la voyante quoi, la
Ouais,
voyante
ouais.
là, la diseuse de Bonne Aventure, c'est aussi un ancien personnage DC aussi.
Ah c'est oui, effectivement, elle était apparue dans un truc, c'était House of Mystery, je crois, où elle était juste un peu comme Madame Xanadu était un narrateur, quoi.
Voilà, ouais, c'est ça. Elle racontait les histoires et elle apparaissait comme ça. C'était un personnage assez mystérieux, un petit peu à la manière des.
Des Crypt Keepers, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Hein,
D'accord.
des récits des années 50, des récits fantastiques ou des récits d'horreur. Et donc voilà, donc c'est aussi un personnage qui nous a ressorti comme ça pour s'en servir en fait dans son scénario à juste titre. D'ailleurs, de toute façon, c'est que des personnages assez étranges en fait. Hein. Starman, c'est vraiment déjà si on n'aime pas trop le côté un peu, bah, c'est pas Doctor Strange, mais on est quand même dans un univers où il y a des, voilà quoi, des créatures assez particulières, assez bizarres. Voilà, c'est particulier quoi l'univers de Starman.
Ah ouais.
C'est vrai, ça frôle le mystique.
Ouais, il y a du paranormal un peu, c'est... Enfin, ouais.
Donc voilà, à la fin de ce premier arc, on va accélérer un petit peu. Enfin, Jack décide de reprendre le manteau de Starman, tout en disant bien je ne mettrai jamais de spandex. Donc le fait qu'il ait sa veste, un t-shirt, voilà, et le fameux bâton cosmique. Alors je sais pas
Et
trop comment
attends,
ils
et
l'ont.
ses lunettes?
Et oui, et ses lunettes d'aviateur. Oui.
Attends.
Voilà, pour pouvoir voler.
Sans en avoir plein les yeux.
Sans en avoir plein les yeux, mais bon. Par contre, sa coupe de cheveux reste en place, tout est. Enfin voilà, quoi, il n'y a jamais froid. C'est génial. Il suffit juste de lunettes, en fait.
D'ailleurs, c'est la réflexion qu'on lui fait que à voler très vite à haute altitude, il va avoir froid. C'est, je crois, la flic qui lui fait cette réflexion dans l'épisode 3, juste avant le combat
Ouais.
final.
Ouais.
Comme quoi, des petits détails ne sont pas laissés au hasard.
Ah non, bah de toute façon, on va en parler tout à l'heure dans la narration, c'est très détaillé au contraire.
Donc à la fin de cet arc, on voit deux épilogues où on voit des gens qui ont été des Starman. On voit un fameux alien bleu, dont le nom Michael Thomas, on l'apprendra un peu plus tard dans la série, Et on voit aussi l'ancien Starman du volume 1, puisque ça c'est Starman volume 2 en fait, qui s'appelle Will Payton, et qui avait eu sa série fin des années 80, début des années 90, et qui est écrite par Roger Stern.
Voilà, j'allais dire.
Excuse-moi.
Non, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est personnage, pas grave, je voulais dire un truc intéressant, au moins comme ça, et bah non.
Personnage que l'on croyait mort d'ailleurs, et on s'aperçoit qu'il ne l'est pas. Il est retenu sur une planète, ou peut-être est-ce dans le futur. En tout cas, c'est pas des humains qui l'ont. Donc voilà. Et sur cette page s'achève le premier arc qui laisse une impression, en tout cas la première lecture, de étrange. C'est vraiment, même si on le remet dans le contexte ou par rapport à ce qu'on lit aujourd'hui, c'est quand même vraiment différent.
C'est étrange, mais en même temps ça donne vraiment le ton de la série. Déjà, si on n'accroche pas à ce premier arc, ce sera compliqué d'accrocher à la suite.
Moi, ma solution, ce serait pour moi de relire cet arc en laissant un petit peu mûrir un petit peu de temps. Parce que moi, comme je disais, la première lecture, j'étais pas accroché, enfin, sans plus, quoi. Je me disais, ouais, c'est sympathique, mais je suis pas sûr que je vais apprécier. Et finalement, voilà, la deuxième lecture, j'ai vraiment, vraiment accroché, j'ai vu plus de détails, j'ai fait d'autres connexions, et vraiment, ça m'a beaucoup plus plu avec une deuxième lecture.
Après, au fur et à mesure que je lisais, je revenais sur le premier arc pour vérifier des choses. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il a mis dans cet arc qu'on se rend pas compte à la première lecture, effectivement, et qu'ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, je te dis, j'avais besoin de faire des liens pour me dire, attends, ça, je l'ai déjà vu. Ah oui, ça, c'est ça, au fait. Donc, mais c'est vrai que moi, l'arc comme ça, enfin, tu dis que si on n'a pas aimé l'arc, on aura du mal à aimer après. L'arc, en tant que tel, moi, il m'a pas vraiment emballé, tu vois. C'est vraiment, je te dis, plus les détails. Et puis, ben, justement, les deux dernières pages, là, avec l'alien et puis l'autre Starman, qui m'ont dit, attends, il y a quelque chose derrière, je vais voir la suite.
Non, enfin moi je disais surtout ça donne le ton, quoi, le ton de la série qui est vraiment comme ça, quoi.
Ah oui, de toute façon dans cette série, il faut savoir que chaque petit détail aura une importance, à un moment ou à un autre. Robinson a écrit sa série comme ça. Et c'est bien qu'on l'ait laissé faire, parce que ça donne quelque chose avec un ton vraiment différent de la production de l'époque et même de la production encore d'aujourd'hui.
Enfin cela dit, si tu veux relire le premier arc, tu dois poser ta journée, hein, parce que...
c'est vrai. Faut bien compter une bonne heure, une heure et demie. Hein. Mais bon, en même temps, on en a pour son argent.
Ouais, tout à fait. Et alors, je sais pas si tu veux en parler maintenant. Donc, tu dis qu'on voit des anciens Starman. Peut-être faire le point sur les anciennes incarnations. On continue à résumer un petit peu le.
Oui, bon, on peut en parler. De toute façon, les autres Starman ont le nom sans être pour autant de la lignée Starman JSA, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont tous porté le nom Starman sans être des vrais Starman au sens super-héros classique du terme. Pour Will Payton, le nom a été donné comme ça, et puis c'est resté, puisqu'à l'époque le Starman n'était plus utilisé.
D'accord, donc aucun rapport.
Aucun rapport, mais Robinson en ajoutera.
D'accord.
Par la suite. Je vais pas tout révéler pour les gens qui veulent découvrir la série petit à petit. Pour l'alien, c'est parce que les gens l'ont surnommé Starman, qui s'appelle Starman comme ça. Et il y a encore une ou deux autres incarnations dont on n'a pas parlé.
Mais l'alien était apparu dans les années 70 aussi.
Oui.
C'est ça.
Oui. Apparemment, sa première apparition serait dans DC First, quelque chose, numéro 12.
First feature. Non, je sais pas.
First special, je crois. Quelque chose comme ça.
First issue special, numéro 12, ouais. Voilà, c'est ça. De mars 1976.
Ouais, ça ne nous rajeunit pas puisqu'on n'était pas nés. Ouais. Donc voilà, donc après, il y a encore une ou deux autres incarnations de Starman qui n'ont pas été abordées, mais elles seront abordées dans la série.
D'accord. Par exemple, le Starman qu'on connaît, si on lit DC Universe, par exemple, le Starman actuel de la JIC, est-ce qu'il a un rapport?
On le verra dans la série, oui.
D'accord.
Mais il n'a qu'un rapport très léger.
Oui, puisque de toute façon, c'est un personnage qui apparaît peut-être après, quasiment, enfin, qui n'est pas encore...
Il date, enfin, il vient du 21e siècle, puis ensuite il a été transporté dans le futur de la Légion, puis il est revenu en arrière, enfin, c'est quelqu'un qui se déplace dans le temps, donc c'est très difficile à... Mais bon, James Robinson, il fait allusion dans sa série et le fait intervenir, donc vraiment, il a vraiment... tout prix ce qui s'appelle Starman, quoi. Enfin, tous ceux qui ont porté le nom Starman font un jour ou l'autre l'apparition.
D'accord, et donc il en a fait un univers cohérent, même si à la base c'était pas du tout.
Exactement.
Ils en avaient que le même nom, quoi.
Voilà.
D'accord. Ouais.
Donc franchement, non, vraiment, ne serait-ce que pour ça, chapeau, quoi.
Bah, de toute façon, je pense que ça doit jouer tout ça, le fait que les gens considèrent comme un chef-d'œuvre ou vraiment quelque chose d'incontournable. Le travail qui a été fait autour de ça, et même le travail de bah, tout ce qui est hypertexte, quoi, c'est-à-dire que toute l'intertextualité au niveau du cinéma, au niveau de la littérature, au niveau de la télévision, enfin, il y a des références, enfin, comme tu dis, quoi, franchement, il faudrait une encyclopédie à côté de toi pour que tu regardes à chaque fois qu'il y a une référence qui est faite à quoi ça fait allusion, quoi.
Encore ouais, heureux qu'on a Wikipédia aujourd'hui.
Mais c'est des références effectivement bien précises et enfin d'époque, quoi. C'est pas des références à la Kick-Ass.
Oui.
Des références un peu cheap, quoi.
Non, oui, ce sont des références vraiment au cinéma noble, littérature noble, enfin dite noble.
Surtout, c'est des références pointues, quoi. Tu sais, tu faut vraiment être connaisseur pour savoir de quoi il parle, quoi. Il y a vraiment des termes.
Moi, je vais être honnête, la quasi-totalité des références me sont passées à côté.
Ah, moi aussi, ouais, bien sûr. Puis, mais en cherchant.
Honnêtement, j'en ai rien à foutre en plus, c'est ça le pire.
Alors que moi, c'est moi, vu que moi, enfin, j'ai. C'était des études un petit peu de litté et de civière anglaise, donc du coup c'est vrai que par exemple.
Ça y est, elle est partie là,
Ouais, attends, et pour une fois que
on
je peux dire
dans
un
minutes,
truc.
On va faire la pause.
Non, mais je veux dire, par exemple, dans l'épisode 6, quand on voit Shade qui parle avec Oscar, enfin dès le départ, moi j'ai fait le lien Oscar Wilde, Portrait of Dorian Gray, enfin voilà, dès le départ, quoi. C'est vrai qu'après, bon, pour une fois que j'ai un truc de référence qui me parle par rapport à vous qui voyez des liens partout.
Ah ben c'est bien, faut qu'on te donne à lire plus de comics parce que tu vas nous trouver toutes les références.
Bah nous on a vu les références quand il parlait d'Alan Scott ou de Jay Garrick sans problème. Toi tu vois les références d'Orlando.
Voilà,
Gray.
Ou quand tu parles de Chandler par exemple, ce n'est pas
dans Friends.
Friends, hein, non, voilà, c'est pas ça. Donc non, c'est roman noir, policier, enfin. Donc ça c'était très agréable pour moi, pour une fois.
Mais alors, le coup des références, c'est très bien. Moi, je trouve que peut-être il insiste un peu trop là-dessus et des fois nous fait un peu trop style. Regardez, j'ai la science. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, notamment avec l'épisode 15, qui est ni plus ni moins qu'un épisode voué à la torture du Starman alien et de Solomon Grundy. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, cet épisode-là, pendant que un des ravisseurs bastonne le Starman, il lui fait la complète de je ne sais plus quel auteur d'ailleurs, enfin, de quel film adaptation par rapport à la littérature, et pour moi c'était trop poussif ça. Honnêtement, c'est à mon sens l'épisode le plus décevant de ce premier omnibus.
Ouais, je sais pas, enfin ouais.
On reviendra de toute façon à ce dernier arc petit peu plus tard. On va continuer un petit peu sur le reste de la série. Dans l'épisode 4, c'est un épisode stand-alone, en fait, comme pas mal d'épisodes, hein, d'ailleurs, tout au long de cet omnibus, puisque réellement, on a le premier arc qui fait 4 parties, on a l'arc qui clôt l'omnibus qui fait 5 parties, on a un petit épisode en 2 parties au milieu, mais principalement, ce sont des histoires à part. Ouais. Chose qui est assez agréable vis-à-vis de l'écriture qu'on a aujourd'hui dans les comics, principalement. Avec cette écriture que en arc pour les trades.
Oui, voilà, oui. À l'époque, effectivement, il y avait beaucoup moins de gros arcs en 5-6 parties, comme maintenant, c'est sûr.
Si, toi, Claire, qui n'a pas lu énormément de comics, tu peux par exemple comparer avec The Losers, qui était un peu le même format, un recueil avec un peu moins d'épisodes, certes, mais où The Losers, à part un stand-alone, c'était que des arcs en plusieurs parties.
Moi, je trouve ça assez agréable, en fait, des petits arcs comme ça. Où, moi, j'ai préféré la narration de Starman, franchement.
Ah oui ?
Moi, je préfère, vraiment.
Mais justement, alors, puisqu'on parle de la narration, moi, je dirais que c'est... Enfin, voilà, quoi. On est vraiment dans les années 90. Donc, il n'y a pas encore eu les succès d'Authority ou d'Ultimate, etc. Il n'y a pas encore eu les Millar, les Bendis qui font des arcs super décompressés en 6 parties avec des où c'est fluide, quoi, au fait, où il y a des répliques vraiment tranchantes, incisives, etc. Où ça, Enfin voilà quoi. C'est pas aussi fluide.
C'est le en fait le langage oral réel quoi.
Dans, ouais voilà. Et The Loser, c'est vrai que c'était totalement dans la nouvelle. Enfin c'est la nouvelle manière d'écrire les comics. C'est vraiment ça quoi. C'est-à-dire c'est bien plus rapide à lire.
Alors que pourtant
c'est
ça date de 2002.
Décompressé.
Ça date de 2002 hein, pourtant hein, The Losers par exemple.
Oui, non mais c'est ça, ça commençait à partir de là quoi. Enfin vers les années 2000. 2001 sans doute. Enfin voilà quoi.
Ouais, 2000, 2001, ouais.
L'arrivée de Bendis au stade de superstar, etc., etc. Millar, etc. Et donc maintenant effectivement les comics ça se lit déjà bah, bien plus vite quoi. On s'en rend compte quand on lit un truc comme Starman. On est dans les années 90 et on se rend compte qu'un épisode il y avait vraiment du beaucoup de texte. C'était vraiment très détaillé quoi.
C'était quand même une exception hein, par rapport à l'époque. Hein.
Ou c'était une exception ouais mais quand même quoi. Enfin d'une manière générale sur pas mal de séries il y avait c'était beaucoup moins décompressé que ça l'est actuellement et surtout il n'y avait pas cette espèce de recherche de tu sais de la enfin voilà quoi c'était les personnages ne s'exprimaient pas du tout de cette manière un peu orale avec des à coups de réplique tu vois incisive comme maintenant quoi
oui,
là dans
oui.
Starman il y a pas vraiment la réplique qui tue quoi tu vois dans Starman à aucun moment
il y a beaucoup
rarement en tout cas le
d'introspection en fait
personnage sort un truc
dans la manière de faire il y a vraiment ça se voit surtout au niveau des combats parce que bon, moi comme peut-être vous vous êtes rendu compte les combats c'est pas du tout mon truc et là c'était plutôt agréable en fait parce que au niveau des combats à chaque fois enfin à chaque fois je m'en rappelle plus pour le premier combat dans notre premier arc c'est comme ça aussi mais après par la suite tu as toujours Starman qui réfléchit à plein de choses pendant qu'il est en train de se combattre et des trucs qui ont rien à voir avec le combat et
oui, il se rappelle les souvenirs
voilà.
d'enfance
et
il
le
pense
truc
à
c'est
des
que
références.
Je trouve ça vraiment agréable justement d'avoir une lecture comme ça alors c'est sûr que c'est dense ça fait beaucoup à lire mais je trouve que enfin justement quoi ça montre le personnage comment il est le fait qu'il soit même pas sur ce qu'il est en train de faire en ce moment ou moi j'ai enfin le côté narration comme ça qui soit pas dans le tiens prends ça dans ta gueule ou des trucs comme ça moi ça m'a plu justement le fait qu'il soit pas dans l'immédiateté de ce qu'il est en train de faire
On a une lecture à deux niveaux en ce qui concerne les combats on a autant une lecture écrite parce que bah, les pensées de Starman etc qu'on a une lecture visuelle représentée par Tony Harris qui nous montre ce qui se passe pendant le combat et si on ne s'intéresse pas vraiment au dessin qu'on prend pas le temps de le regarder et qu'on lit simplement on voit même pas le combat.
Bah c'est une approche, de toute façon c'est une approche assez ancienne où effectivement tu sais dans les Spider-Man par exemple t'avais des fois Spider-Man qui affronte Octopus et qui pensait en même temps à ce qu'il allait trouver comme excuse pour sa tante
ouais.
les courses qu'il avait pas faites etc etc donc un truc vraiment qui n'avait rien à voir et effectivement ces épisodes là c'était l'époque enfin là c'était carrément les années 60-70 où vraiment lire un comics ça demandait plus de temps
de toute façon hormis la lourdeur du style des années 60 où on te décrit l'action
voilà,
alors que
ouais,
tu
là.
La vois etc
oui.
C'est tout à fait écrit comme un comics des années 60 hein. C'est purement le Silver Age au niveau écriture avec des pavés de texte des bulles assez grosses enfin, c'est vraiment ça mais avec une écriture quand même assez moderne, qui n'a pas cette lourdeur, comme je disais, de te répéter ce que tu vois et déjà
oui,
visuellement.
C'est vrai
clair.
Que c'est une écriture assez moderne. Et puis, mais il y a juste eu entre temps cette espèce de passage au style très ciné, quoi, de la narration
oui.
Qu'il n'y avait pas encore à l'époque dans Starman et dans les comics des années 90.
Ouais,
c'était l'évolution des années 2000, ça, cette espèce d'ajout qui fait que maintenant c'est encore plus fluide que ça ne l'était à l'époque. Par exemple, c'est, je dirais que, tu vois, dans le même style pavé de texte, t'as Invincible maintenant, qui est un peu dans ce style-là.
Ouais.
Il y a vraiment beaucoup à lire, mais par contre, comme on est passé par tous les auteurs qui font des répliques un petit peu plus, comment dire, recherchées, c'est un peu plus rythmé, Invincible. Avec beaucoup de texte, ça passe mieux que Starman maintenant, tu vois.
Parce que les phrases aussi sont plus courtes.
Oui.
Je ne sais pas quel est le style de la traduction française, j'imagine que ça se rapproche énormément de ce qui est écrit en anglais, mais ce sont des phrases très longues avec un niveau de texte quand même assez riche.
Ouais.
C'est pas écrit par. Je veux pas donner de nom parce que j'en ai pas qui viennent à l'idée, mais je veux dire, c'est pas le tout venant qui peut écrire ça.
Oui, voilà, par exemple, il y a des moments où on a l'impression que c'est vraiment des extraits de romans, quoi.
Ah oui, complètement. Mm-hmm.
C'est ah oui,
la
c'est
littérature
clair, ouais. C'est
pure
vraiment,
et
oui.
simple.
C'est vraiment le côté littéraire, on le sent vraiment, hein, dans le niveau de langage, quoi.
Oui. Et puis même dans les références, comme on disait tout à l'heure.
Oui,
Oui,
bah
ça
oui,
sort,
c'est
bien sûr.
clair.
Ça ressort bien. Enfin voilà quoi, c'est vraiment un truc assez ambitieux et d'un point de vue narratif, bah c'est pas rebutant, mais c'est déstabilisant, on va dire. C'est
Après, ça dépend, tu vois, parce que moi, honnêtement, je préfère ce genre. Bon, en même temps, la plupart des comics que j'ai lus dans ce style-là, c'est plutôt des comics, je m'en rends compte, en fait, qui sont plutôt années 80, années 90. Et moi, j'aime bien, justement, ce style-là de narration. Je trouve
Ah, moi
que...
aussi, non, mais moi aussi j'aime bien, mais ce que je veux dire c'est que c'est pour qui justement lit des comics depuis quelques années, d'un seul coup lire Starman, ça risque de lui faire un choc, quoi.
Ah bah, bien sûr. Mais moi, personnellement, c'est pas quelque chose que je conseillerais à un jeune public de comics, on va dire, quelqu'un qui n'a pas lu beaucoup beaucoup de comics,
Ah non, c'est clair, pas du
c'est
tout.
clairement pour des gens qui sont bon, même si toi, Claire, tu n'as pas lu énormément de comics, mais bon, tu en entends assez parler à la maison, avec le site, etc. Donc
Ça, en
voilà.
fait. Moi, je baigne dans le milieu du comics sans jamais en lire, c'est magique. Hein.
Mais quelqu'un qui n'a lu que par exemple des choses assez récentes. Comme tu citais, des choses écrites par Bendis, comme par exemple les Avengers, ou même les Spider-Man d'aujourd'hui, etc., qui n'y a pas beaucoup de comics et qui n'a pas été voir beaucoup de choses des années 80-90, c'est clairement pas pour une personne comme ça.
Non, voilà, ouais, c'est clair et net. Hein. Là, on est plus dans, tu vois, si par exemple Roger Stern écrivait un personnage maintenant, on retrouverait un peu plus ce style-là, par exemple.
Ouais, c'est
Mais
certain.
comme on disait avec Steve tout à l'heure à la maison, ce serait plus en fait un comics qui pourrait paraître sous Vertigo que sous DC, quoi.
Bah, clairement, la construction est telle que ça se rapproche pas du comics de super-héros, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui pourrait se situer dans la gamme Vertigo.
Ouais.
Je sais pas si tu as eu
Oui,
cette
c'est
impression à la lecture, toi aussi.
peut-être un petit peu du côté de. Alors j'en ai lu très peu, mais comment ça s'appelle? Avec Mike Carey au scénario là.
Hellblazer.
Hellblazer, peut-être, non?
Moi, je l'aurais rapproché plus de quelque chose dans le style de Sandman Mystery Theater,
Ouais.
qui a un
Ah oui, le film.
super-héros, on va dire, assez classique, puisque c'est le personnage de Sandman, de la JSA, pas le Sandman version Neil Gaiman, mais qui était situé dans l'univers Vertigo. Bon, bien sûr, ça se passait dans le passé. Mais avec Opal City telle qu'elle est montrée là, c'est vrai que la représentation de Tony Harris fait qu'on se demande des fois si on n'est pas dans les années 30 ou les années 60.
Alors justement, Tony Harris aussi, parlons-en. Qu'est-ce que vous avez pensé des dessins de Tony Harris? Est-ce que vous avez aimé?
Magique.
Moi, j'ai beaucoup aimé, moi.
C'est
Ah oui?
magique. Ah
Ouais.
ouais, vraiment.
Moi, j'ai beaucoup
Ah
aimé le
ouais.
dessin.
Alors moi, je sais qu'il a changé beaucoup son style. Maintenant, il dessine plus comme ça.
Ah bah sur Ex Machina, par exemple, il suffit de comparer le Starman qu'il a dessiné dans les années 90 avec Ex Machina qui dessine maintenant avec au scénario Brian Vaughan. Et on voit nettement la différence de style, c'est impressionnant.
Et moi, je préfère le Harris de maintenant, en fait.
Moi aussi, personnellement, je préfère le Harris d'Ex Machina parce qu'il insiste beaucoup plus sur les visages, notamment.
Ouais, là, il y a une espèce. Alors, je sais pas, ça vient peut-être de l'ancrage, mais
Mais il
je
s'ancre
trouve.
lui-même, hein, pourtant.
Ah, d'accord. Mais en tout cas, là, le jeu des couleurs, enfin des ombres et des lumières, plutôt des ombres d'ailleurs, est quand même assez particulier. Alors, pareil, j'ai pas été. Comment dire, voilà, j'ai pas été bluffé par les dessins, quoi. Il y a une espèce d'ambiance particulière à ce titre.
Il y a un côté art déco en fait.
Ouais, il y a vraiment une ambiance. Moi, enfin comme je trouve que ça fait une ambiance un peu genre Chicago des années 30, quoi. C'est vraiment la ville. Enfin, c'est vraiment.
Ah, ça aurait été peut-être bien, effectivement, dans la gamme noire, qu'il nous fasse un truc dans la gamme noire, Tony Harris.
Non, mais
Ouais.
c'est le style, quoi. C'est enfin. Ça se ressent vraiment, quoi. Même le personnage. Enfin, le côté, tu sais, les deux familles. Enfin. Ça sent le polar noir des années 30 un peu, quoi.
Ouais, puis même la tête des persos, etc.
Ah ouais,
C'était très
tout, ouais.
années 30. Quand tu vois juste la couverture, tu peux penser à un truc style Rocketeer, quoi, qui se
Ouais,
passe.
ben oui, complètement, complètement.
Voilà. D'ailleurs, il est avec sa veste en cuir et puis le fait qu'il vole, etc. Il y a un petit peu un look d'aviateur, Starman. enfin cette version-là en tout cas, et ça peut faire penser effectivement à un héros bien plus ancien que qu'il n'y paraît, puisque finalement l'histoire est censée bien se situer dans les années 90, quoi.
Mais je sais plus lequel de vous deux parlait tout à l'heure de la façon dont était dessiné Opal City. Dans l'écriture de Robinson, Opal City est clairement un personnage en elle-même. Il décrit la ville comme il décrirait un personnage.
Bah, de toute façon, c'est comme comme beaucoup de villes, toutes les villes fictives du DC Universe, c'est un petit peu des personnages. Gotham City, il y a des histoires entières uniquement sur Gotham City, et il y avait même un arc où Gotham City, au fait, se révoltait contre Batman en quelque sorte, ouais, il y a quelques années. Et voilà, donc c'est vraiment le propre des villes fictives, quoi.
C'est pas autant mis en avant que dans cette série-là. Je veux dire, on a lu là 16 numéros. Et Opal City fait vraiment partie de l'histoire. L'épisode sur les deux épisodes sur le cirque, les épisodes 7 et 8, où justement il est en dehors de la ville, on le ressent complètement.
Ah oui, ça n'a rien à voir. Au niveau de l'ambiance, c'est pas pareil. Hein.
Il manque totalement quelque chose. Bien sûr, c'est compensé dans l'histoire, et c'est pas plus mal aussi de sortir cette ville pour se rendre compte qu'elle nous manque.
Et ça, on est c'est sûr que si on était à sa place, on serait pressé d'y revenir chez soi quand même.
Voilà. Et comme il le dit aussi, dans Opal City, il n'y a pas de, comment on dit en français, il n'y a pas de banlieue. On est dans la ville et puis d'un seul coup, pouf, on est à l'extérieur de la ville, on est dans les champs.
Ouais, oui.
C'est assez marrant comme truc. Pour en revenir un petit peu sur la narration, rien que dans les épisodes en eux-mêmes, il y a une narration particulière. On a l'épisode 4 où on a qui est une petite histoire qui amène d'autres histoires en même temps, mais qui n'a pas grand lien en tout cas pour le moment avec la suite de l'omnibus, si ce n'est la première rencontre entre Starman et The Shade, qui lui donne son journal et qui lui dit lis-le, au moins lis-le, juste ça. Après, si tu veux pas lire les autres, d'accord, mais lis ça et on verra si ça t'intéresse. Et ça, ça va être quelque chose qui va revenir fréquemment. On en a deux épisodes là, on va y venir après. On a le 5 entre temps, qui est en anglais, qui s'appelle Talking with David, 1995. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir aussi fréquemment dans la série. Jack va rencontrer son frère mort, David.
Voilà, et ça c'est peut-être l'un des épisodes qui m'a le plus marqué de l'omnibus.
Alors que moi, c'est celui qui m'a le plus embêté, franchement.
Ah
c'est
celui
que j'ai moins apprécié, ouais.
Bah, au fait, ah bah non, bah alors attends, mais vous changez d'avis comme de chemise, tout à l'heure, c'était
alors
pas le même
que,
épisode.
Non, alors que moi, j'ai adoré cet épisode, c'est Claire qui n'aime pas ce...
Claire, je croyais que c'était un autre épisode que tu n'avais pas aimé.
Non, c'est moi qui n'aimais pas le 15.
Ah d'accord.
Bon, et moi j'aime bien le 6, justement, j'aime l'épisode d'après.
Ah bah alors attends, alors donc le 5, c'est celui où il parle avec son frère, et moi j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. L'épisode est peut-être pas exécuté de la meilleure manière qui soit, mais en tout cas, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était une direction intéressante, qu'il puisse parler à son frère et qu'il
déjà,
ait cette relation.
Ouais, voilà. C'est cette relation d'outre-tombe. En fait, on sait même pas s'il rêve, si il est transporté dans un autre monde. On sait pas exactement. On verra bien, puisque c'est quelque chose qui va revenir tous les ans dans la série. C'est-à-dire que tous les 12 mois, on aura un épisode où il parle avec son frère.
Ah d'accord.
Et ça, c'est super intéressant. Ça permet un petit peu de mettre les choses à plat. Et d'ailleurs, lui-même s'en rend compte tout au long de l'épisode. Ça lui fait du bien de dire ce qu'il a sur le cœur, qu'il n'a pas eu le temps de forcément dire à son frère avant qu'il meure.
Ouais, voilà.
En plus, l'exécution en elle-même de l'épisode, tout est en noir et blanc, à l'exception de son frère, qui est en couleur.
Ouais.
Son frère mort, bien sûr.
Oui, oui. Oui, bien sûr.
Et une fois de plus, là encore un autre stéréotype, ça commence comme un team-up de super-héros classiques, c'est-à-dire que d'abord on se fight parce que il faut qu'on se fight, c'est comme ça, c'est des team-up de super-héros, et ensuite on est ensemble. Bon, là, c'est l'objectif, c'est la reconstruction du cimetière parce qu'ils ont fait plein de dégâts, mais d'abord ils se foutent sur la gueule et ensuite ils se parlent.
Ah oui, effectivement.
Il y a tout ces genres de petites choses qui sont là et que Robinson met petit à petit, et ça donne vraiment un ensemble qui est hyper cohérent.
Bah ouais, moi enfin voilà, c'est peut-être parce que c'est quelque chose, je sais pas, que des frères enfin virils, j'en sais rien, mais moi c'est vraiment, ça m'a, je vois pourquoi il l'a fait, je comprends pourquoi il a été fait, mais
viril qui se bat dans un cimetière
non, mais...
et qui décide de tout reconstruire après en se disant oh, non.
Ouais, voilà, c'est C'est ça quoi, c'est je comprends mais je n'apprécie pas. Enfin voilà, j'ai pas aimé. Je l'ai lu, voilà, j'ai fait bon, OK, c'est bon, vas-y, je prends la suite quoi. Et justement la suite après, j'ai été beaucoup plus enfin j'ai beaucoup plus apprécié l'épisode d'après quoi.
Je voulais
Peut-être
juste
aussi parce que l'épisode d'avant était peut-être que je l'avais pas aimé.
Je voulais juste dire une dernière chose sur cet épisode 5, sur le fait que, enfin, en tout cas, moi, je l'ai vachement apprécié. C'est peut-être parce que moi, j'ai un frère aussi. Maintenant, on vit plus du tout dans la même ville. Et donc, on se parle pas comme on se parlait quand on était petit. Puisqu'on habitait ensemble, logique.
Ouais.
Bah, finalement, c'est quelque chose qui manque. Alors que pourtant, je peux prendre le téléphone, l'appeler n'importe quand, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, par exemple, on voit un truc à la télé. On se dit, ah bah tiens, j'aimerais bien... On parlait avec mon frère et puis déconner, mais on va pas forcément prendre le téléphone pour regarder l'émission de télé ensemble par téléphone. Enfin, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et le fait qu'il puisse revoir son frère, alors lui, bien sûr, il est séparé par autre chose que pas habiter dans la même ville, c'est juste par la mort, un peu plus gênant.
Juste par la mort.
mais voilà, c'est ça. Et finalement, il arrive à recommuniquer avec son frère malgré que son frère soit loin en fait, et puis rattraper entre guillemets un peu le temps perdu.
Non, mais en fait, les relations, tout simplement. Entre frères sont très
voilà.
bien,
et bah moi j'ai vraiment ressenti
très bien
ça
écrites.
Ouais, c'est ça. Alors je sais pas si toi aussi tu l'as ressenti comme ça, Benny, parce que je sais que tu as un frère, donc est-ce que peut-être que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi comme ça ou pas, je sais pas.
Ouais, enfin je sais pas si je l'appellerai pour regarder un film
non mais
avec lui au
voilà,
téléphone, mais non,
moi je le ferai pas non plus, mais
non,
y a des
non mais
fois
non
c'est
mais je
vrai
comprends,
que
ouais, non mais bien sûr, ouais, sans doute, mais moi j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit que bah voilà, il pouvait y avoir une relation qui allait se nouer avec son frère défunt. Alors je savais pas qu'il allait réapparaître à intervalles réguliers.
Ah bah si, tous les ans.
D'accord.
Et justement, la prochaine rencontre sera dans le deuxième omnibus.
Bah voilà, du coup.
Et je vais vous teaser simplement en vous parlant de bateau pirate. Voilà, parce que j'y ai jeté un œil et ça m'a
Ah bah
l'air très,
alors là
très
vraiment
drôle.
là, tu nous as teasé à mort. Alors, on a envie d'acheter
Ah
le
là,
deuxième.
ah là, oui, attention, ils vont
Juste,
jouer aux
alors
pirates, c'est
bateau
ça?
pirate, c'était juste le truc qu'il fallait pas dire pour. Alors là,
Exactement.
franchement, c'est le truc qui m'a vraiment donné envie. Là, je vais peut-être sortir là, il est encore temps. Quitter pour aller chercher le deuxième, je pense.
Ah non, mais
Et
moi, rien que ça, voilà.
Vu que tu dis qu'il se revoit dans un an, moi ça me fait penser justement par rapport à l'autre arc.
The
Hein.
List.
Voilà. Le fait que justement rendez-vous dans un an aussi.
11 mois.
Et justement, je trouve qu'il y a par rapport au temps et par rapport à la notion, enfin, d'année, de futur, il y a vraiment énormément justement dans la narration aussi par rapport au fait qu'on sait des choses qui vont se passer, qu'on ne sait pas quand. On sait que voilà, dans le futur, il y aura ça, il y aura ci, et qu'on nous en parle sans jamais les voir en fait.
Oui, l'exemple, je pense, auquel tu penses, c'est quand il dit qu'il y avait plusieurs choses qui l'avaient vachement surpris, dont il se rappellerait toute sa vie. C'était notamment la naissance de sa fille, qui est son deuxième enfant, etc. On sait qu'il aura une fille, par exemple. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'on sait.
Ou alors, il y a une scène et on dit, voilà, il aurait dû mieux profiter de ce moment-là parce que dans 10 minutes, ce sera plus du tout la même ambiance. Enfin, on nous prévient toujours de choses qu'on pourrait très bien ne pas nous dire, quoi, parce que finalement, nous, on est en train de lire en ce moment, mais on en apprend sur le futur. Et là, tu vois, le fait que tu dis que dans un an, il se voit, à la fin de l'autre arc, qu'on dit rendez-vous dans un an, enfin, voilà, c'est... le futur, enfin, le temps, je trouve... fait aussi partie, c'est un personnage vraiment dans Starman quoi. Le passé, le présent, le futur, pour moi c'est vraiment c'est pour ça que je parlais de continuum espace-temps au début, parce que ça m'a vraiment frappé dans ce comics quoi.
Bon, alors là je suis que dire de plus à ce sujet. Moi je suis largué là, ma fiche de lecture là, j'arriverai pas à la rendre en temps et en heure là.
Non, c'est vrai que c'est très complexe hein, comme série.
Désolé.
On va parler
non,
de
non, mais donc bah, ça nous permet de passer justement à ton épisode favori. Alors,
voilà, l'épisode
enfin,
6.
L'épisode favori, l'épisode 6, donc
voilà,
qui est The Shed.
C'est
bah,
ça.
Qui est en fait un épisode dans une série d'épisodes, donc les épisodes dont on parlait tout à l'heure, qui sont avec des artistes invités uniquement pour cet épisode-là.
Mm-hmm.
Une série qui s'appelle A Tale of Times Past. Alors, je sais pas trop comment ils ont traduit ça. On s'en fout un peu, en même temps ça n'a pas vraiment d'intérêt, vous le lirez dans le bouquin si vous avez envie de le lire.
Oui.
Et où on voit justement le journal du Shade. Et donc En même temps que Jack le lit, en tout cas pour ce premier épisode, c'est Jack qui le lit, pour le deuxième épisode de Time Space qu'on a, c'est le Shade qui raconte. Mm-hmm. Ce sont des éléments anciens. Donc ce premier épisode se passe en 1882. Et puis bah, vu que tu l'as adoré, Claire, je vais te le laisser en parler.
Mais en fait, dans cet épisode, on voit The Shade qui discute avec un dénommé Oscar. Qui parle de littérature, qui parle d'écrivains qu'il a rencontrés, d'histoire. On comprend assez vite que, bah voilà, The Shade, déjà à cette époque, il avait une spécificité, quoi. En fait, bah, c'est au fur et à mesure de cet épisode, voilà, il y a une intrigue qui se pose, et puis on voit The Shade à l'œuvre. Et voilà, enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé le personnage. J'ai pas envie, tu vois, de donner des trucs, donc je sais pas où m'arrêter quand je raconte
épisodes. Déjà, ce qu'on voit, c'est que le personnage, bon, dans les premiers épisodes, enfin, dans le premier arc, quand il est introduit, il dit clairement, puisqu'il était narrateur de ses propres parties, qu'il oscille un petit peu entre le bien, le mal, ça dépend des moments, quoi. Et puis ça dépend aussi de la vision des gens. Des fois, certains le considèrent comme un vilain, d'autres le considèrent comme un héros. Et à cette époque-là, en tout cas, il travaillait comme une sorte de mercenaire qu'on appelait pour résoudre les problèmes qu'on pouvait pas faire résoudre par la police. Donc là, c'est le cas, puisque c'est une fille qui est hypnotisée par un gars d'un cirque et qui va lui léguer la moitié de sa fortune. Et son frère ne veut pas que ce soit comme ça. Donc il fait appel au Shade pour essayer de régler le problème, puisque la police peut pas intervenir.
Ce Shade fait vraiment penser justement à Sandman, je trouve.
Ouais, tout à fait, moi, je trouve aussi. C'est un personnage que t'as du mal à situer. Tu sais pas, enfin, je veux dire, lui-même dit qu'un coup de bien, un coup de mal, mais même après avoir lu là, les 16 épisodes, je sais toujours pas où le situer.
Bah, il est un peu au-delà de ça, en fait.
Ouais, il est, t'as l'impression qu'il sait tout, enfin, que c'est quelqu'un à un limite omniscient, quoi. Bah, il est toujours au bon endroit, ouais, au bon moment, enfin.
Son immortalité et ses pouvoirs font que, voilà, il est au-delà de tout ça.
Ouais, et puis ses limites, il pique limite la vedette à Starman, à bien des passages. Hein.
Ouais, c'était clair. Hein.
Il essaie de devenir, je sais pas, une sorte de mentor ou de guide pour Starman, mais dans quel but? C'est ça qui est le problème, c'est dans quel but?
Ouais, et puis on voit bien qu'il fait appel à d'autres, enfin voilà, à la famille Odaire, comme dirait Denis.
Odaire.
Voilà.
C'est la famille Odaire.
Et donc, on dirait qu'il a vraiment, il a un projet et que bon, il joue ses petites notes là et que il espère qu'à la fin ça réussisse bien. Mais bon, nous on sait pas trop où est-ce qu'il veut aller avec son projet, quoi.
Voilà, comme il le dit lui-même plusieurs fois, Opal City c'est sa ville. Malgré tout ce que le Starman peut dire que c'est sa ville, il est le protecteur de la ville, etc. Le Starman, que ce soit Jack ou que ce soit Ted, le père, malgré tout pour The Shade, Opal City, c'est sa ville. Et donc, c'est lui qui, entre guillemets, décide un petit peu qui va rester, qui doit partir. Voilà, il se mêle un petit peu de tout comme ça. Mais dans cet épisode-là, d'ailleurs, on apprend un petit peu de choses sur son origine. Apparemment, il était avec Charles Dickens au moment où il a eu ses pouvoirs, par exemple. Que d'ailleurs, ça a profondément changé Charles Dickens dans sa façon d'écrire. Des petites choses comme ça, et on va en apprendre petit à petit sur le personnage tout au long de la série.
Oui, il y a plein de références intéressantes et on va dire recherchées, hein. C'est pas n'importe quoi en fait. Mais en tout cas, le personnage de The Shade, c'est vraiment un personnage super intéressant qui, je sais pas s'ils ont fait un spin-off.
Il y a eu, je crois, une mini sur The Shade. Ou une série, franchement, même. Une série régulière, je ne sais pas, je crois qu'elle est même sortie chez Vertigo.
D'accord, ok, c'est oui, parce que
ça correspond tout à fait.
Et écoute, on passe aux épisodes suivants peut-être.
Oui, bah de toute façon, on va peut-être pas tout
vite
traiter,
fait. Non,
quoi,
on va pas tous les détailler, mais juste bon, on va les ébaucher, quoi, on va dire.
Voilà, il y a ensuite un double épisode, en tout cas un épisode en deux parties, le 7 et le 8, où Jack va visiter un cirque. Alors c'est marrant, encore une fois, l'épisode d'avant, The Shade va se balader dans un cirque et là Jack se retrouve au cirque de nouveau. Ouais. Est-ce une influence de The Shade ou pas, finalement, puisque il voit le cirque et finalement il décide d'y aller, comme ça. Donc, et c'est là qu'il retrouve Michael, ou Michael, comme c'est écrit de temps en temps, le fameux Starman Alien.
Oui, le Martian Manhunter Starman, quoi.
Ouais, c'est un peu ça.
Il ressemble aussi à un gardien de la galaxie ancien, non? Attends, non, je me gourre. Enfin bref, je
oui,
ne sais plus.
Un personnage de l'univers cosmique de chez Marvel.
L'univers cosmique en tout cas. Ouais. Ouais.
Donc bon, voilà, il sauve le cirque et il sauve en même temps Michael. Et puis ensuite, on a deux épisodes comme
attends,
ça.
Attends, tu passes pas aussi vite là. C'est quand même
oui,
assez c'est... important pour lui. C'est le moment quand même où il prend conscience que sa tâche de héros, enfin, il voilà, qu'il apprécie le fait d'être un
oui,
héros. Enfin,
c'est vrai.
c'est quand même super important. Hein. C'est un tournant dans son dans sa quête, je veux dire, personnelle de je suis Starman. Avant, il le disait pas, je suis Starman. À partir de là, il le dit, je
Oui,
suis
voilà,
Starman.
c'est vrai.
Bah alors maintenant, Steve, tu vas te reprendre, hein. Tu vas te reprendre parce que c'est super important et là, il y a
Non,
du
mais c'est...
laisser-aller.
C'est vrai, en plus, je l'ai marqué sur mes notes, mais je suis passé rapidement. Donc,
Non, mais désolé.
dans cet épisode-là aussi, on a des interludes sur un des de la famille Oder qui se révèle être un pourri. Enfin, un ripoux, en fait.
Ah bah
Un
il
flic
en fallait
ripoux.
un dans la famille.
Bah, avec tous les gosses qu'ils ont, hein, ils peuvent pas tous être bons. Hein.
Qui a des visions d'un Indien.
Résumé comme ça, c'est super clair. Hein.
Ouais, c'est clair.
Et en fait, cet Indien n'est pas... Là encore, une fois, un personnage qui a vraiment existé dans le DC Universe qui s'appelle Scalp Hunter et qui avait des relations avec The Shade puisque c'était l'ami de The Shade.
Mais rien à voir avec la série Scalped.
Non, rien à voir puisque c'est de toute façon chez Vertigo. Donc,
En plus. Oh, n'importe quoi.
donc voilà, et c'est un personnage qui était ami avec The Shade. Donc voilà, la famille Oder a quand même aussi ses liens avec The Shade malgré tout. Et finalement, on en apprendra plus sur ce personnage. Là, et sur les relations qu'il a avec le flic ripoux.
Oui.
On a aussi un deuxième interlude où on voit encore ces fameux posters qui avalent les gens qu'on avait déjà commencé à voir, dans le numéro 4 d'ailleurs. Et ça qui se révélera être pour une prochaine histoire dont The Shade commence à parler un petit peu, à Jack, dans les épisodes d'après. Mais on n'a pas de résolution, en tout cas jusqu'à l'épisode 16. Donc des fois, un petit bout d'histoire qui commence à mettre au numéro 4 n'a toujours pas de résolution en épisode 16.
Ouais.
Ouais, bah oui, comme quoi.
Comme quoi, c'est écrit sur le long terme, vraiment. Et on sent qu'il tient son truc et qu'il sait où il va, quoi, depuis le début.
Ah oui, ça se sent. C'est pour ça que, justement, je disais que je revenais sur les numéros précédents, quoi. C'est que tu sens vraiment qu'il a disposé des petites pierres comme ça et vraiment intéressant.
Donc, dans les épisodes d'après, le Starman bleu, en fait, va s'installer chez le père de Jack. Enfin, en tout cas, il lui dit d'aller là-bas pour en même temps essayer de l'aider, puisqu'il ne parle plus le terrien. Il parle que
Ouais.
l'extraterrestre.
Il parle avec des signes.
Ouais. Il parle en égyptien, en fait.
Ouais.
Et puis bon, il se passe des choses, notamment Nash, la fille de The Mist, qui s'échappe de prison.
Eh oui.
Et qui va devenir la...
La némésis.
Ouais, voilà, la némésis de Jack, finalement.
Comme le père à l'époque avec le père. Enfin, c'est vraiment.
Oui, puis c'est les deux fils, enfin les deux enfants, comment dire, qui à la base n'étaient pas du tout
Les deux renégats.
intéressés par le métier, j'allais dire,
Ouais, non, c'est ça.
D'ailleurs, je sais
qui se
pas.
retrouvent à s'affronter, quoi, finalement, à épouser totalement la cause de leur père respectif.
Je sais pas si vous avez remarqué le
Directement.
changement dans la façon de s'exprimer de Nash, notamment. Comment elle s'exprimait dans le premier arc en bégayant.
Bah si, oui, ouais,
Parce
bien
que
sûr.
plus du
Ah, mais
tout.
là, de toute façon, elle a complètement changé de
Puis même, elle a
façon.
changé de look aussi.
Oh
Oui,
ouais.
mais
Je l'ai
rien que sa
noté.
façon de s'exprimer, puisqu'elle avait l'air d'être assez particulière, même limite un petit peu attardée, et là, plus du tout.
Bah là, elle a complètement épousé la cause de son père, comme Jack de son côté, quoi, en fait.
Alors, ça, c'est pareil, ce sera expliqué dans le Starman numéro 71.
D'accord, en effet. Donc, au fait, après avoir dépensé encore 150 euros, puisque pour arriver à l'omnibus où il y aura le numéro 71.
Voilà.
Et avoir passé un mois de lecture.
Ouais.
Non-stop, sans manger,
Voilà,
sans boire,
parfait, un
sans
mois de
pisser.
congé pour lire Starman. Et vous
Voilà.
saurez pourquoi elle a changé. Bah, c'est génial.
Non, mais bon, voilà, quoi. Finalement, il aurait pu passer dessus sans jamais l'expliquer. Mais il l'explique quand même. Et avec une explication que je connais, je vais pas en parler ici pour éviter les spoils, mais qui tient vraiment la route.
Ok.
D'accord.
Voilà. Bon, ensuite, on a un petit épisode, encore un Time's Past, justement, qui revient sur une histoire que le père de Jack lui avait racontée dans l'épisode 9.
Avec la
Épisode.
JSA, non?
Ouais, avec la
Ouais,
JSA,
c'est
voilà.
ça, ouais.
Et là, encore une fois, raconté par The Shade. Et puis ensuite, on a le fameux arc de conclusion de cet omnibus, Sins of the Child, après le premier arc qui s'appelait Sins of the Father, qui est un petit peu une première boucle à la série.
Oui.
Où autant la, le début de la série commençait sur l'histoire d'héritage, pas forcément accepté, mais en tout cas l'héritage. Et là, finalement, c'est l'héritage accepté dans celui-ci.
Ouais, complètement.
Avec une façon de faire pour l'arc assez agréable et assez sympathique. Chaque épisode commençant par la même scène, ou presque. Et en tout cas, et avec les mêmes mots.
Avec le même texte, voilà, c'est surtout ça. Je sais pas si ça, ils l'ont rendu en français ou pas.
Oh, si, si, je crois, ouais. J'ai l'impression.
Donc voilà, on a une alternance des personnages centraux, en tout cas, de chaque épisode. Avec l'épisode 13 qui se situe dans le crossover Underworld Unleashed, un crossover qui était paru à l'époque chez DC, qui donc, prenait tous les vilains. Mais voilà, cet épisode-là, finalement, fait partie du crossover, mais peut se lire indépendamment sans avoir lu le crossover et sans même le connaître. Ça vous laisse complètement...
Ben, c'est non, mais voilà, oui. N'en disons pas plus sur les, l'histoire en général,
c'est
puisque...
Oui, ben voilà, c'est la fin...
Faut laisser au lecteur le voilà le, les des surprises.
On va peut-être passer à une petite conclusion quand même puisque ça fait déjà un peu plus d'une heure.
Oui, je crois. Oui.
C'est vrai que c'est tellement dense que on peut en parler pendant des heures quoi. Mais c'est vrai que bon, c'est une série. Moi personnellement, j'accroche totalement et je comprends pourquoi elle a atteint ce rang de série culte sans aucun souci. Et, J'ai qu'une hâte, c'est continuer pour lire le deuxième omnibus. Enfin, peut-être pas tout de suite, parce que là, j'en ai bouffé un peu trop pour terminer avant le podcast, mais d'ici quelques
c'est une,
jours.
C'est une série qu'il faut lire avec parcimonie. Faut pas lire trop d'épisodes d'un coup, parce que c'est vrai que...
Ouais, voilà, faut lire.
C'est tellement lourd que... Ouais, voilà, 4 épisodes grand max, quoi. Après, ça devient difficile à digérer, quoi.
Ouais, faut prendre le temps, faut prendre le recul. Pour
3 épisodes dans la semaine, pas plus. Hein. Sinon, on fait une overdose et...
Après, il y a accoutumance.
Non, vous êtes comme nous. Ouais. Vous n'arrivez plus à finir votre podcast. Ouais.
Donc voilà. Mais il y a des choses qui sont vraiment intéressantes, notamment ces épisodes Tales of the Time Past qui sont vraiment des breaks dans la série, mais qui la font avancer quand même et qui sont vraiment intéressants. Et on a envie de plus de ce genre d'épisodes, même si on a envie que la série avance. Donc c'est assez contradictoire.
C'est vrai.
Mais la narration générale de la série est vraiment bien faite parce que on apprend des petites choses sur chaque personnage tout au long des épisodes, et une petite chose avec une autre. Et contrairement à ce que je disais pour ceux qui nous suivent ou sur Grant Morrison, où faut qu'on fasse les connexions nous-mêmes avec sans aucune réponse, là on peut faire les. Faut qu'on les fasse nous-mêmes, mais elles sont quand même facilement faisables.
Oui, et puis tout prend sens au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire que voilà, on sait où on va, on voit où ça va, quoi.
Ouais.
C'est ça, ouais.
Mais enfin moi franchement alors c'est une série que je ne connaissais absolument pas du tout. Enfin je Starman, je savais même pas ses origines ni rien. Et j'en ai entendu énormément de bien à la sortie du premier omnibus, donc vraiment je m'attendais à un truc extraordinaire. Mais c'est vrai que le fait de lire ça maintenant et que ça fait quand même ça a quoi, ça a 15 ans, plus de 15 ans.
Parce que le premier, le zéro est sorti en 94.
Voilà, c'est vrai que entre temps, il y a eu les comics, on va dire nouvelle génération, et que lorsqu'on est habitué à en lire des tonnes, et c'est vrai que ça fait bizarre de revenir à un style tel que celui-là. Et sinon, c'est un univers tellement particulier, un personnage tellement à part, que tout le monde n'aimera pas, quoi. Tout le monde n'accrochera pas à cette œuvre. Bon, qui a des qualités évidemment indéniables, hein, mais voilà quoi, faut vraiment peut-être déjà aimer le genre personnage un peu mystique, un peu hors du temps comme Sandman.
Déjà. Moi, je pense que les gens qui aiment lire du Vertigo aimeront Sandman, aimeront Starman, je veux dire.
Merci.
Vraiment quoi, c'est.
Non, je sais, ouais. Non, effectivement, ouais, non, effectivement, complètement. D'ailleurs, les gens qui vraiment accrochent au Vertigo, il y a des chances qu'ils accrochent bien à Starman. Mais par contre, c'est vraiment une série, c'est pas une série, je dirais pas grand public, quoi, pas du tout.
Non, mais je pense honnêtement, hein, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut avoir une certaine maturité dans le comics pour vraiment apprécier.
Ouais, Ouais, faut avoir lu un bon paquet de choses. C'est pas du tout comme The Losers qu'on peut lire comme ça, quoi, même sans avoir lu aucun comics quasiment.
Ah bah
De toute façon.
oui, clairement.
Puisque c'est comme un film qu'on irait voir au ciné, enfin voilà, qu'on rentre dedans tout de suite, y a pas de problème, on est même comment dire, conditionné quoi pour apprécier ce style, enfin normalement quoi, enfin tu vois, c'est un truc qui se digère assez bien. Starman, voilà quoi, c'est vraiment
Mais
à
moi, je
tout
trouve
s'accrocher
que
quand même.
même au-delà de juste du comics, je pense qu'il faut avoir un certain, enfin, niveau de culture entre guillemets, quoi. Enfin, il y a quand même énormément de références à plein de choses. Alors
Ouais.
moi aussi, je les ai pas toutes eues du tout, hein, les références. Des fois, je voyais à peu près où est-ce qu'ils voulaient en venir, mais enfin, ça a la teneur d'un roman, quoi, dans les
Ouais, enfin
choses
voilà,
qui se disent. Enfin, c'est vraiment. C'est littéraire, quoi. C'est du comics littéraire. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. C'est vraiment, oui, c'est pas donné à tout le monde, quoi.
bah voilà quoi, c'est peut-être le petit reproche que je ferais à Starman, c'est peut-être d'être un petit peu trop élitiste.
Un peu, ouais. Bah,
Dans le
c'est le
sens où tout le monde ne pourra pas apprécier ça à sa juste valeur et ne pourra pas y avoir accès.
Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vite laisser tomber. Hein. Après avoir lu 2, 3 épisodes, qui diront « Ok, bon, c'est bon, je comprends rien,
Ce qui est
c'est trop
dommage, puisque
dense.
c'est quand même un omnibus. Le premier était à 45, le deuxième est à 50, d'ailleurs, faut préciser.
» Ah oh, ils ont augmenté le prix, je ne savais
Ils
pas.
ont, ouais, le deuxième est à 50 €, je l'ai vu.
Ils nous font payer le retard en plus.
Bah écoute, ouais, 50 €. Alors, je sais pas, en magasin, j'avais l'impression qu'il était un petit peu plus épais, mais en fait, j'en sais rien puisque j'avais pas le premier à côté pour vérifier. Donc, c'est peut-être une. Bon, je sais pas, il y a peut-être un peu plus de pages avec les spéciaux, en fait. Ils sont peut-être
Ouais,
un peu
bah
plus
oui, parce
denses.
qu'on a plusieurs épisodes de Showcase, on a un annual et on a jusqu'au 25 de mémoire.
Donc, si c'est des épisodes un peu plus importants, bah effectivement, il y a plus de pages vu qu'il y en a de toute façon 17 comme dans le premier omnibus. Donc voilà. Donc il y a des chances qu'ils soient légèrement plus paginés. Donc voilà. Donc augmentation de prix. 50 €, ce qui est pas hyper cher puisque il y avait des omnibus à 70 ou 65 pour les Marvel.
Qui se lisait sûrement plus vite malgré
Qui se lisait, ouais,
que.
qui se lisait plus vite, paradoxalement. Bon. Mais c'est sûr que bon voilà quoi, si c'est alors aussi voilà, ça demande énormément de temps et moi je sais que je suis pas spécialement pressé de lire la suite et surtout si je dois la lire, faut que je me trouve des vacances quoi.
Mais bref, ouais, moi pour moi faut pas lire tout d'un coup. Hein.
Ah
C'est
non, pas
on se gâche le plaisir de la lecture. C'est vraiment quelque chose qui se lit petit bout par petit bout et qui s'apprécie.
ouais, qui se digère vraiment, je pense, hein. Que vraiment tu lis, tu reviens, tu relis, tu reviens. Enfin, c'est tu te dis que voilà, tes 50 euros, tu les as bien dépensés, quoi, parce que c'est de l'investissement dans le temps, quoi.
Oui voilà, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont pris le temps de sortir le second, c'est parce que ils se sont dit de toute façon les trois quarts qui ont acheté le premier n'ont pas encore
Non,
terminé de le lire.
c'était un retard de matériel.
Oui, le fameux retard de matériel, puisque bon on peut le dire de toute façon, Panini, 3 jours avant la sortie première, quoi, officielle,
On n'avait
trois
pas
jours
tout.
avant se sont aperçus qu'ils n'avaient pas le matériel pour imprimer.
C'est bien.
En gros, c'était ça, hein, je me gourre pas. Hein.
Ouais, à peu près, ouais, c'est ce qu'avait annoncé la personne qui s'occupe du Facebook de Panini.
Voilà. Bon, c'est bien, au moins ils l'ont dit. Moi, je l'aurais pas dit, hein. À ce niveau-là, genre, j'aurais trouvé une excuse du style, oh, je sais pas, ça a merdé à l'imprimerie, ou je sais pas quoi. Ça a imprimé tout à l'envers, enfin bon, voilà, quoi.
Non mais bon voilà, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui seraient pas rebutés par la version anglaise, qui est quand même honnêtement, voilà, faut un bon niveau d'anglais pour lire Starman. Hein. Vraiment un très bon niveau d'anglais même, je dirais.
Ouais. Il y a beaucoup de mots compliqués.
Vous pouvez trouver les équivalents en fait, ce sont exactement les mêmes omnibus au niveau matériel qui sont publiés en version anglaise sur Amazon pour moins cher que les versions françaises, honnêtement.
Alors, faut préciser qu'on n'a pas les lettres de The Shade dont tu me parlais.
Oui, alors je sais pas par contre si elles sont dans les versions omnibus américaines. Ouais, vas-y,
Par
bah.
contre, il y a plusieurs extraits du courrier des lecteurs, en fait plusieurs passages écrits par James Robinson où il parle au fait de la création de sa série, etc. J'ai pas tout lu, j'en ai lu vraiment des brefs parties, Et voilà, donc c'est assez intéressant. Il y a toutes les couvertures évidemment mises entre chaque épisode.
Bah, à ce prix-là, quand même.
Donc non, non, mais l'édition est soignée. Juste le papier qui est vraiment assez fin, c'est assez chiant en fait. Pour tourner les pages, c'est trop fin. C'est-à-dire que quelquefois, je tournais bien souvent deux pages en même temps, tu vois.
En fait, tu as de trop gros doigts, c'est ça.
Ah
Non,
non, non, non, pas des trop gros doigts. Et
mais bon.
donc voilà, donc c'est bon, ça va quoi. C'est bon pour le prix et pour le temps surtout que ça va demander à lire. On va
C'est un
dire que
bon
c'est correct.
investissement. Un beau rapport page-prix. Enfin, temps de lecture-prix.
Oui, voilà.
Et puis, bah, comme on disait, hein, c'est quand même une série qui est considérée comme culte, à juste titre, honnêtement. Donc voilà, si tout ça ne vous fait pas peur, et j'espère pas, au contraire, allez-y, jetez-vous dessus, et puisque le 2 vient de
Alors,
sortir, vous aurez vraiment de la lecture pour 8 mois. Donc.
enfin moi je serais un peu plus réservé que toi, tu vois. Je dirais vraiment si vous vous intéressez à Starman après nous avoir écouté, bah enfin voilà quoi. C'est vraiment un truc. Il n'est pas certain que tout le monde accroche. Bon, c'est
Ben,
à vous de
n'hésitez pas
voir quoi.
justement à laisser des commentaires pour nous dire votre ressenti quoi sur Starman, comment
Ah oui,
vous le
bah surtout si
ressentez
vous
vous
l'avez
quoi.
acheté, si vous l'avez acheté et que vous n'avez pas aimé, grâce à nous ou à cause de nous, faites-le nous
Voilà,
savoir.
vous pouvez peut-être faire une annonce pour essayer de le revendre.
Voilà, ouais.
Parce qu'on en fait bien la pub quand même, hein.
Mais c'est moi en tout cas à mon sens ça le mérite, hein. Mais bon, voilà. Après c'est les goûts de chacun, bien sûr. Comme
Ouais,
toujours.
moi j'ai bien aimé aussi, mais bon après voilà, c'est pareil. Moi j'aime bien Vertigo, donc.
Oui, mais ce n'est pas Vertigo.
Je sais, mais c'est du
Et
Vertigo.
finalement, moi je trouve ça pas plus mal que ce soit pas du Vertigo, parce qu'au moins c'est vraiment basé dans l'univers DC, et on voit des personnages de l'univers DC passer, comme les membres de la JSC, mais on voit aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on voit Solomon Grundy, qui a un rôle vraiment autre chose que juste se faire taper dessus, quoique. Mais en tout cas, on le voit vraiment, et il est là plus d'un épisode. On entend aussi parler de Jade, la fille d'Alan Scott, le premier Green Lantern. Enfin, on la voit, en tout cas, on parle d'elle, et on sent que ça fait vraiment partie de l'univers partagé. Donc, de toute façon, la série fera partie aussi de crossover par la suite. Donc, elle est vraiment pleinement ancrée dans l'univers DC. Et chose qui n'aurait pas été possible avec l'univers Vertigo. Donc, c'est un mal pour un bien.
Oui, mais tu vois, moi qui n'ai pas lectrice de DC, tous
Bah
ces
voilà.
trucs-là, je m'en suis pas rendu compte. Donc, tu vois, ça aurait très bien pu être aussi du Vertigo. Ça tient l'histoire aussi, quoi.
Oui,
Après, c'est des petits plus que des lecteurs de comics comme vous et comme nos auditeurs apprécient, ça c'est clair.
mais il y a des gens aussi qui n'aiment pas le super-héros classique et qui ne vont même pas regarder ce qui sort chez DC et Marvel. Vont aller prendre des choses dans la gamme Vertigo ou dans d'autres maisons d'édition qui
Ben
ne
oui,
sont
mais
pas
moi par
taguées
exemple,
super-héros.
quand tu m'as dit qu'on faisait Starman, moi je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je m'attendais à Starman, le mec en spandex et tout, truc cosmique, enfin voilà, parce que c'était du DC, justement. Je les comprends les gens, parce que moi j'y aurais pas été, franchement.
Et les gens qui lisent du Vertigo et quasiment uniquement du Vertigo, je les encourage vivement à tester cette série parce qu'ils y retrouveront cette même ambiance, ce
Tout à
même
fait.
ton qui leur plaît dans les séries Vertigo.
Puis ceux qui aiment bien aussi un petit peu la réutilisation de personnages du Golden Age,
Ah oui.
bah là ils auront de quoi faire
Ah
quoi.
bah
Surtout que c'est
clairement, bien sûr.
une réécriture vraiment intéressante. Et puis comme tu le dis, James Robinson parvient quand même un tour de force lorsqu'il arrive à en
À
fait
tout
à créer
relire.
un lien entre les Starman qui a priori n'en avaient pas quoi.
C'est vrai que c'est son premier projet majeur. Bon, il avait écrit Grendel aussi, mais qui est quand même un peu moins connu. C'est son premier projet majeur, et pour moi, c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux, je trouve, de tout ce que j'ai lu de James Robinson aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'il a fait de mieux. C'est con de dire ça, parce que c'est vrai que c'était au début de sa carrière, donc c'est-à-dire que ce qu'il a fait depuis est moins bien, mais on en reparlera sûrement dans les futurs Comic City.
De toute façon, on va parler sans doute de Robinson avec Superman en VF
Oui,
bientôt.
le mois prochain, au mois de juillet. Et puis bah si le Superman continue de paraître, et notamment New Krypton, on en parlera. Et voilà,
Mais
ça n'a
enfin,
pas cette qualité.
d'un autre côté, il faut dire que c'est pas pareil, on peut pas vraiment juger pareil un auteur qui fait sa propre série et puis ensuite quand il travaille sur des personnages comme enfin des personnages tu sais, comme Superman, Spider-Man, etc., ou même les X-Men, où plein d'auteurs sont passés dessus, c'est sûr que c'est pas pareil, quoi. C'est pas vraiment le même travail. Donc, faudrait juger par rapport à ses autres créations personnelles.
On pourra aussi parler de Justice League Cry for Justice, qui normalement devrait sortir en français, je crois. Et
je sais pas. Ouais.
Et voilà, et ça, enfin, c'est du Robinson et c'est pas bon, quoi.
Je sais pas, je l'ai pas lu justement. Peut-être que je vais adorer.
Non, c'est franchement, c'est pas bon.
On verra.
À part peut-être qu'on un personnage à l'intérieur que du coup, maintenant qu'on a lu Starman, on reconnaîtra plus facilement. Je n'en dirai pas plus.
Non, d'accord.
Voilà, une dernière pensée sur Starman, une dernière chose à ajouter avant de terminer ce podcast spécial, ultra long.
Non, moi je crois qu'on a fait le tour.
Voilà, c'est un chef-d'œuvre, mais un chef-d'œuvre qui n'est pas pour tous, quoi. Non mais voilà, c'est parce que moi j'en avais entendu vraiment parler tellement bien que je m'attendais vraiment à être scotché. Et voilà, c'est vraiment très 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 particulier, quoi. C'est un truc qui sort totalement de l'ordinaire, Starman. C'est un ovni.
C'est justement aussi un intérêt.
Ah oui, non mais complètement, complètement. Non mais pour qui cherche autre chose que des trucs comme les New Avengers ou je sais pas, enfin
bizarre que j'ai choisi cet exemple bizarre.
Non mais je dis New Avengers Ultimate machin parce que c'est un petit peu les comics de la nouvelle vague, quoi, tu vois. Là on est vraiment dans du comics old school et comme on n'en fait plus de toute façon.
Ah ouais, clairement. Ça, c'est
je pense
ça.
Que quelqu'un qui sortirait voilà, on peut dire ça comme conclusion, quelqu'un qui ferait du Starman aujourd'hui, enfin qui ferait une série comme ça aujourd'hui, je pense que là, ce serait fini, quoi. Ça marcherait pas.
Ah, non, ça s'arrêterait
au bout
pas,
de trois numéros.
Ça ne marcherait pas, mais ouais, enfin ouais, c'est ça. C'est clairement ça.
Ça trouverait plus son public. Donc, fallait que ça sorte à ce moment-là pour que ça devienne vraiment quelque chose de comment dire, de mythique, quoi.
Je ne sais pas quelles ont été les ventes de Starman à l'époque. En tout cas, je sais que les omnibus Starman aux États-Unis se sont vraiment bien vendus. Donc, j'ai pas de chiffres là de en mémoire, mais je sais que ça s'est vraiment bien vendu. D'ailleurs, je crois que le tome 3 doit sortir en août là.
D'accord. Pour moi, la conclusion, c'était que cette série, il fallait qu'elle se fasse à cette époque, à ce moment-là, pour vraiment qu'elle trouve son public et qu'elle fonctionne. Parce que malheureusement, je pense qu'on serait passé à côté si James Robinson s'était réveillé dans les années 2000 et avait voulu écrire ça dans les années 2000.
Ou il l'aurait écrit, mais de manière totalement différente.
Ce qui aurait été dommage aussi, puisque voilà, qu'on aurait eu encore un comics. Enfin, ça aurait tout changé, quoi. Ça aurait été, ça aurait pas du tout été le même style, le même esprit. Enfin,
voilà. C'est vrai qu'en abordant la lecture, et le premier arc notamment, et avec la découverte de Jack, un personnage antipathique, totalement antipathique d'ailleurs au lecteur, on se dit, c'est révolutionnaire pour l'époque, c'est ce qu'on lit aujourd'hui, des personnages qui sont contre les super-héros, enfin contre le côté super-héros avec le spandex et les costumes colorés, etc. Et finalement, il accepte cette chose-là petit à petit, et ça change au fur et à mesure de la série. Autant le début est très novateur pour l'époque, et aujourd'hui beaucoup moins, puisque ça a été réutilisé plusieurs fois, ce système, et finalement ça change. Donc, voilà. On avance sur son temps à l'époque, et aujourd'hui en retard, on va dire, par rapport aux comics d'aujourd'hui.
Bah, par rapport à l'aspect narratif, surtout. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je te dis, il fallait que ça se fasse à l'époque, ça c'est fait, donc maintenant, bah voilà, il n'y a plus qu'à décider si ça vous intéresse et si ça vous séduit, bah tant mieux, quoi. Voilà.
Et puis c'est vrai qu'on en a parlé aussi assez rapidement, mais les dessins de Tony Harris, quand même, en tout cas à mon goût, sont vraiment partie inhérente du récit. Et sans ce dessinateur-là, je pense pas que ça aurait pu être pareil.
Bon, bien.
C'est
la conclusion, voilà.
Bien, donc on termine sur ça, apparemment.
Il faut bien terminer un jour en même temps.
Super phrase, tu veux quelque chose. Même,
là, on fait un épisode de voilà. Là, au fait, le temps du podcast, ça vous donne l'idée du temps qu'on met pour lire un épisode.
Ouais, voilà.
Et on pourrait, honnêtement, on pourrait encore en parler pendant un bon moment, je pense.
Ouais.
Parce qu'il reste encore beaucoup de choses à dire dont on n'a pas parlé, mais on vous laisse quand même quelques surprises. même si on a beaucoup révélé déjà.
Et si vous avez des questions d'ailleurs sur, je sais pas, hein, sur la série, sur est-ce que ça me plairait si je lis Barbie, machin et tout, bah on peut vous répondre. Donc,
Cheval
pas.
Magazine.
Non, mais si vous avez vraiment besoin de conseils encore, ou si vous n'êtes pas sûr que ça va vous plaire, Starman, bah posez-nous des questions en fonction de vos goûts de lecture et on vous dira si ça vous correspond, enfin s'il y a des chances que ça vous corresponde ou pas, par exemple.
Exactement. Si ça vous donne envie de lire des bouquins d'auteurs anglais du 19e siècle, n'hésitez pas, je peux vous conseiller aussi.
Bon ben voilà, c'est dit. Donc franchement, réagissez à ce que vous voulez. Voilà. Et surtout, si vous avez aussi même des idées d'autres pour d'autres spéciaux.
Spécial.
Pas beau.
Ouais, bah ma langue à fourcher pour un autre spécial ou pour des spéciaux.
N'hésitez pas.
Ne chipotons pas.
Comme on avait dit dans le dernier Comic City, c'est vrai que là, pour le moment, tous les spéciaux sont bouclés jusqu'au mois de novembre. Mais
Ah, faudrait peut-être que je me mette au travail alors.
Tu connais déjà ceux de juillet et août.
Je sais, c'est de juillet, mais je sais pas jusqu'à novembre.
Ça suffit pour le moment. Déjà, lis ce que t'as à lire pour juillet et août et on.
Oui. Ouais, là aussi, j'ai mon mois qui est bouclé là.
Mais justement, donc parlons-en déjà. Donc prochainement, on se retrouve pour.
Le prochain spécial, le numéro 8, ce sera Fable.
Voilà, Fable.
Voilà, j'ai rien qui est...
Alors, Fable, c'est vraiment un incontournable. Voilà.
C'est vrai qu'avec ce format de spécial, on peut se permettre de prendre plus le temps pour parler uniquement de cette série, chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire dans les podcasts réguliers où il faut qu'on aille un peu plus vite, même si déjà on prend pas mal notre temps, mais on peut pas aller autant en profondeur comme là on a été sur Starman sur un seul épisode quoi.
Voilà, donc prochainement Fable qui est quand même avec Walking Dead la série hors super-héros vraiment à lire.
Ah oui.
Actuellement, franchement, je trouve que c'est
donc je pense qu'on fera peut-être ça va dépendre hein, de notre temps de disponibilité de lecture, mais on va peut-être aborder la quasi-totalité des volumes sortis en France jusqu'à présent.
Oh là là, mais ça me fait vachement de lecture.
On aura une cinquantaine d'épisodes. Mais ça se lit plus vite que Starman.
Non, ça se lit vite et franchement, tu peux lire
beaucoup plus vite
un arc par soir facile quoi.
Et c'est enfin, très très accrochable.
Ouais.
Oui. Ouais.
Ok.
Et pour le mois d'août, eh ben on vous fera la surprise, on vous en parlera dans le prochain spécial. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sera une autre série Vertigo.
Et ce sera.
Voilà, série que d'ailleurs on fera en deux fois parce qu'elle est très longue, voire trois.
Et que peut-être. J'ai déjà commencé à lire.
Ouais. Allez, sauf que juillet c'est avant août, dommage.
Eh oui.
Voilà, bien. Sur ce, on se quitte. N'hésitez pas, comme on disait, à nous donner des idées pour de futurs spéciaux. Même si on a déjà tout bouclé, on pourra soit les ajouter pour les prochains épisodes, soit peut-être même intervertir si vraiment l'idée nous séduit. Particulièrement, bien entendu. On se retrouve pour le prochain spécial au mois de juillet. Pas de date de précise pour le moment, ça va dépendre de notre dispo. Et on se retrouve bien sûr aussi tous les 15 jours, enfin en tout cas deux fois par mois pour Comic City qui traite l'AVF et Comics Weekly toutes les semaines qui traite l'AVO. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter. Et bien sûr, sur le site. Et bien sûr, tous les épisodes sur iTunes.
Et moi, je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc merci beaucoup pour justement les trois podcasts, les spéciaux, le Comics Weekly, le Comic City tous les 15 jours. Merci à vous.
Oui, effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait très plaisir. Par contre, vous êtes de plus en plus discrets. On aime bien les gens bruyants, donc n'hésitez pas à poster des commentaires. Enfin voilà quoi, hein. Ça peut être n'importe quoi, des questions, des félicitations ou même des
corrections.
Vous n'êtes pas d'accord, hein. N'hésitez pas. Hein.
Au contraire, non, enfin voilà. Enfin,
si
voilà,
ça fait débat, enfin, je veux dire, voilà, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec nos vues.
Exactement. De toute façon, vous avez vu, on est là, on répond toujours.
Bon, des fois, on répond pas tout de suite, mais
oui, parce que les boulots à côté font qu'on n'est pas toujours dispo, mais c'est vrai qu'on essaye d'être un maximum présent pour pouvoir répondre. Mais c'est vrai qu'on arrive aussi, ça nous arrive aussi de faire des erreurs, on n'a pas la science infuse, donc n'hésitez pas non plus à nous corriger si jamais vous vous entendez une erreur qui vous choque, ou même qui vous choque pas, simplement une erreur, vous pouvez nous corriger. Au contraire, on aime bien, justement, ne pas rester dans l'erreur. Voilà. Même si il ne doit pas y en avoir non plus beaucoup. Hein.
Non, parce qu'on a quand même presque la science infuse, quand même.
Ouais. Allez, un petit peu de pommade et on se la pète.
Bon, et bien, bien sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt, les amis.
À bientôt et portez-vous bien.
À bientôt.
Ciao.